Prions. Seigneur, nous te remettons encore une fois ce temps d'écoute où nous nous mettons à tes pieds. Ouvre grand nos oreilles, Seigneur, afin de recevoir ce que tu as réservé pour nous. Dispose nos cœurs. Seigneur, que nous puissions agir sur ce que nous entendons, que nous puissions réformer nos vies selon ta parole. En Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le livre des juges depuis 6 semaines environ. Et aujourd'hui sera notre dernière fois dans le livre, la dernière prédication de la série. Et le livre se termine avec une dernière déclaration que vous connaissez certainement et que je vous invite à relire avec moi à la fin du chapitre 21, le dernier verset, juste chapitre 21, verset 25. En fait, j'aurais à vous faire lire aussi le chapitre 17, verset 6, mais c'est exactement la même chose. Donc nous faisons 2 en 1, sachant que au chapitre 17, verset 6, c'est le même texte, le même verset, mot pour mot. Jude, chapitre 21, verset 25, qui dit ceci: « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » En ce temps-là, pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Comme j'ai dit, la même phrase se trouve dans le chapitre 17, verset 6. Nous pouvons lire la même chose dans le chapitre 18, verset 1, dans le chapitre 19, verset 1 également. Il y a juste une partie du verset. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Verset 19 à 1, en ce temps-là où il n'y avait pas de roi en Israël. Et il semble que l'auteur veut nous dire quelque chose là-dessus. Parce que, en ce temps-là, il n'y a pas de roi en Israël. On peut aussi dire que ce sont des déclarations qui étonnent. D'un côté, nous nous trouvons face à une déclaration insistante de l'auteur qui semble vouloir nous faire comprendre que c'est parce qu'il n'y a pas de roi en Israël que la situation est telle qu'elle est en ce moment. Et de l'autre côté, on sait très bien que Dieu avait dit à Israël: « Je serai ton roi. » Donc tu ne feras pas comme les autres nations, moi Dieu, je serai ton roi. Donc il est étonnant effectivement d'entendre l'auteur du livre des juges avec insistance dire: en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors comment comprendre la position de l'auteur? En tout cas, comment comprendre ces deux positions? D'un côté, pas de roi en Israël, je serai votre roi. Et de l'autre côté, ben, si la situation est telle qu'elle est, ben, c'est parce qu'il n'y a pas de roi. Et la leçon du livre des juges n'est pas qu'Israël avait besoin vraiment de roi, en tout cas de roi humain, mais qu'Israël avait besoin d'un discernement spirituel, saint. Israël avait besoin de reconnaître et de suivre Dieu qui les avait conduits hors du pays d'Égypte, d'où ils étaient esclaves. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas reconnu. Et nous avons vu, bien vite après l'entrée en Canaan, bien vite après la conquête, Israël s'est détourné de Dieu. Et dans le dernier chapitre des juges, les tribus d'Israël ont été déchirées par la guerre civile, parce que plutôt que de se considérer collectivement comme le peuple de Dieu, chacune de ces tribus a privilégié sa propre tribu au détriment d'un sentiment plus large d'unité, on va dire d'unité nationale. Et nous avons pu le voir tout au long des prédications qui ont été faites, cela a été destructeur. Nous avons vu qu'il y a un schéma récurrent dans le livre des Juges, c'est celui d'une descente. Le peuple fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Dieu suscite un peuple étranger pour les châtier, pour les punir. Il crie vers l'Éternel et l'Éternel leur envoie un libérateur pour les délivrer de l'oppresseur. Ils sont effectivement libérés. Ils vivent bien pendant toute la durée de vie du libérateur. Ensuite, le bonhomme, il meurt, ou la femme meurt, dans le cas de Déborah. Et puis, le peuple retourne dans son péché, mais plus profondément que précédemment. Et dans le chapitre 21, nous lisons que la tribu de Benjamin risque de s'éteindre, parce que les autres tribus avaient fait le serment de ne pas donner leur fils, ou leur fille plutôt, en mariage aux hommes de Benjamin. Il y a eu la guerre, on a décimé les femmes de la tribu de Benjamin. Et le reste des tribus, se sentant pris entre leur serment et l'extinction éventuelle d'une tribu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils se sont rappelés qu'à Yébesh, ces gens-là n'étaient pas venus leur prêter main forte. Et donc, pour trouver des femmes à la tribu de Benjamin, ils ont décidé de kidnapper toutes les jeunes filles de la tribu ou des gens de Yabesh. Donc, ils ont exterminé hommes, femmes mariées, enfants. Ils ont gardé que les jeunes filles. Ils ont dit ça, on va leur donner. Comme ça, ils auront des descendances et la tribu va perdurer. Vous voyez comment l'homme fonctionne quand il pêche? Et le livre nous raconte que 12 000 soldats ont été envoyés pour détruire la ville de Yabesh en Galaade avec l'ordre de kidnapper les jeunes filles qui n'avaient pas connu d'hommes pour qu'elles deviennent les épouses des Benjaminites. Et malgré cela, il y avait encore un manque de femmes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Mais ils ont décidé, pendant la fête de Silo, il y avait une célébration à Silo, vous irez là-bas et vous allez kidnapper quelques autres filles qui manquent pour les hommes de Benjamin. Et c'est ce qui a été fait. Ainsi, en faisant ce qui leur semblait bon, ce peuple pécheur qui appartenait à Dieu est passé du désastre moral à l'effusion de sang et à l'injustice. Il n'y avait ni fidélité, ni sagesse, ni retenue, ni éthique, ni décence, rien. On fait ce qui nous semble bon. Et puis voilà. Tout le peuple faisait ce qui lui semblait bon. Et cette déclaration est établie comme quelque chose de mauvais. Si on n'avait pas compris ça, l'auteur le répète à 4 reprises pratiquement. 2 identiques. Et puis au milieu, pas de roi en Israël. Aujourd'hui, certains ne voient rien de mal dans cette déclaration, par exemple. Qu'y a-t-il de mal à faire ce qui me semble bon? Se demande-t-il. Beaucoup pensent, et surtout en France, je ne sais pas si vous l'avez noté, c'est ainsi que doit se dérouler la vie. Les Français ont horreur qu'on leur dise ce qu'il faut qu'ils fassent de leur vie. Un Français n'aime pas ça. C'est pas vrai, Olivier? C'est vrai. Le Français n'aime pas ça. Qu'on leur dise quoi faire de leur vie. Et en faisant ce qui leur semble bon, ils disent exactement ça. C'est nous qui décidons. Vous doutez bien que pour Dieu, ce n'est pas le cas. Et prenons, par exemple, ou un exemple de la vie quotidienne, comme la conduite, par exemple. On parle bien de faire ce qu'on souhaite faire. Comment pourrions-nous être en sécurité sur la route si chacun faisait ce qui lui semblait bon, au mépris du code de la route, par exemple? Je décide de contourner le rond-point par la gauche parce que c'est plus rapide et ça me semble bon. En vertu des règles de sécurité. Alors que j'ai des voitures qui viennent en face. Vous imaginez le désastre que ça peut causer. Si les panneaux ne disaient pas la même chose pour tout le monde, comment nous en sortirions-nous? Et si faire ce qui me semble bon cause du tort à quelqu'un d'autre, devrais-je quand même y aller? Devrais-je quand même faire ce que j'ai projeté de faire, alors que je sais pertinemment que ça peut causer du tort? Si votre réponse est non, alors je vous pose la question, mais pourquoi pas? Pourquoi pas faire ce qui me semble bon? Et vous me répondriez, parce que c'est pas bien, c'est mal. Et je vous répondrai, d'où nous vient la notion de bien et de mal? S'il n'y a pas un Dieu qui existe pour établir les lois selon lesquelles nous devons conformer nos vies. Un autre exemple avec les 10 commandements, par exemple. Sous une forme simplifiée, ils disent, pas d'autre Dieu devant le Seigneur, pas d'image taillée ou d'idole, ne pas utiliser le nom de Dieu de la mauvaise manière, ne pas oublier d'observer le sabbat comme jour de repos, d'adoration, de renouvellement, de relation, honore tes parents, ne pas commettre de meurtre, ne pas voler, ne pas porter de faux témoignages, ne pas convoiter les biens du prochain. Les gens à l'époque de juge devaient connaître ces commandements. Mais ils ne vivaient pas selon ces commandements. Et donc, je vous pose la question, si vous aviez le choix de vivre dans une ville ou dans un pays où ces commandements étaient respectés, et le choix de vivre dans une ville où ces commandements n'étaient pas respectés, que choisiriez-vous? C'est une évidence pour vous? Vous savez qu'il y a des gens qui aiment vivre dans l'anarchie. Ce n'est pas si évident que ça. Il y a des gens qui sont rebelles et qui préfèrent aller à contre-courant, en tout cas de l'ordre établi. Ce serait meilleur de vivre, en effet, dans un pays où les règles étaient respectées. Un pays qui accordait au nom de Dieu toute la considération qu'il mérite. Un pays où chacun s'accordait un temps de repos hebdomadaire, on ne serait plus fatigué. Ce serait merveilleux de vivre dans un pays où tout le monde respecte les parents, tout le monde respecte les grands-parents, et c'est un dirait comme autrefois. Ce serait bien de vivre dans un pays où il n'y a pas de vol, où tout le monde dit la vérité, où tout le monde travaille pour un juste salaire, où les hommes et les femmes gagnent le même salaire. Ça serait merveilleux de vivre dans un tel pays. Et ce n'était pas le cas dans au temps des juges, et ce n'est certainement pas le cas aujourd'hui encore. Vous avez sûrement entendu déjà ces paroles, tu dois faire ce qui te semble bon. Ou alors, fais ce que ton cœur te dit de faire. J'ai souvent entendu ça dans des films. Alors que la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. Ou alors, vous avez entendu des paroles comme « Qui es-tu, toi, pour me juger ou pour me dire ce que je devrais faire ? D'où tu sors ?» Et quand il s'agit de mes sentiments, de mon regard sur la vie, de mes désirs, de mes opinions, de mes expériences, de mes droits. Ne suis-je pas roi de moi-même, reine de moi-même? Je ferai ce qui est bon à mes yeux. Cela peut être tout aussi vrai pour celles et ceux qui disent croire en Dieu, qui sont chrétiens, comme ceux qui n'y croient pas du tout. Vous pourriez dire, je crois à la morale, je crois qu'il y a le bien et le mal, mais combien de fois luttons-nous avec ces personnes qui ne font pas les choses comme nous pensons qu'ils devraient les faire? Combien de fois sommes-nous amers face à des personnes qui font tout l'opposé de ce que nous croyons qu'ils doivent faire? Combien de fois luttons-nous avec ceux qui n'agissent pas comme nous pensons qu'ils devraient agir? Et combien de fois luttons-nous avec une mauvaise pensée, avec un péché, parce que cela nous semble bon? Et nous refusons de nous en défaire. Combien de fois luttons-nous avec le fait de porter un jugement sur les autres parce qu'ils ne sont pas comme nous? Toi, tu es un pécheur, païen. Tu ne fais pas partie de l'Église. Tu n'es pas comme moi. Et nous avons ce regard de mépris, de dédain. Je suis enfant de Dieu. Le livre des Proverbes a beaucoup à dire sur la manière dont Dieu évalue ce qui est plaisant aux yeux, ce qui est d'ordre du semble bon. Proverbe 16, verset 2, par exemple, qui dit « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse l'esprit, c'est l'Éternel. » Proverbe 21, 2, qui dit « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, encore une fois, mais celui qui pèse les cœurs, cette fois-ci, c'est l'Éternel. » Et Proverbe 30, verset 12, qui dit « Il est une race qui se croit pure. » Aïe. Il est une race qui se croit pure, qui se croit meilleure que les autres et qui n'est pas lavée de sa souillure. Très souvent, nous ne parvenons pas à voir clairement nos propres conditions. Nous regardons les autres. Nous ne nous regardons pas nous-mêmes. Et c'est pourquoi Proverbe chapitre 26, verset 12 dit « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. » Si tu crois être sage à tes propres yeux. Et l'auteur du Proverbe nous encourage en ce sens en nous disant « Ne sois pas sage à tes propres yeux. Laisse quelqu'un d'autre dire de toi que tu es sage, mais ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et surtout, détourne-toi du mal. » Et donc le message du livre se résume à ceci. Ne faites pas ce qui est bon à vos yeux. Faites ce qui est bon aux yeux de l'Éternel ou de Dieu, pareil. Parce que les voies de l'Éternel sont les meilleures. Elles sont droites, dit le prophète Osée. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Alors ne faites pas ce qui est juste à vos yeux. Faites ce qui est juste aux yeux de Dieu plutôt. Parce que nos cœurs sont tortueux. La période d'activité des juges a continué bien après le livre des juges, vous savez. Dans le livre de Samuel, nous voyons qu'Élie, ensuite Samuel, ont été juges, ils ont servi comme juges. Et dans le chapitre 8 de 1 Samuel, il y a une scène assez déchirante vers la fin de la vie de Samuel qui survient après tout ce qu'il a essayé de faire, tout ce qu'il a tenté d'accomplir au nom de Dieu. Des versets 4 à 8, il est écrit tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis-nous un roi pour nous juger, comme le font les autres nations. » Samuel vit avec déplaisir ce qu'il disait. « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. » Étonnant, non? Car ce n'est pas toi qu'il rejette. C'est moi qu'il rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. Qui est-ce qui règne? C'est des rois. Ça veut dire que dès le départ, Dieu était le roi. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Et Samuel, il a fait exactement ça, il a fait nommer un roi. Mais comme l'ont démontré les années qui ont suivi, même quand il y avait un roi en Israël, le peuple de Dieu avait quand même du mal à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Tous les rois choisissaient l'option de faire ce qui était juste à leurs propres yeux. Pourtant, Moïse les avait avertis des années avant, une centaine d'années avant la période des juges, dans Deutéronome chapitre 12, verset 8. Et pour autant, ça n'a rien changé. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne change pas. Nous sommes aussi ce peuple au cou raide. Aussi ce peuple au cœur dur, au cœur tortueux. Nous aurions aimé avoir une haute estime de nous-mêmes. Mais la réalité, c'est que nous sommes tous pécheurs et que les êtres humains que nous sommes sont enclins à l'égoïsme, à l'avidité, à l'orgueil, à l'arrogance, à l'ignorance, à la violence. Et même pour ceux d'entre nous qui cherchons un chemin de compassion, d'amour et de sainteté, nous échouons bien souvent. Comme ont échoué tous ceux qui nous ont précédés. Même David, dont il est dit un homme selon le cœur de Dieu, a échoué. Quand on lit l'histoire de David, oui, il a, sous certains aspects, c'est peut-être un bon roi, mais pour régner, il a réduit pas mal de peuples à l'esclavage. Et figurez-vous que David était un très mauvais papa. Très mauvais papa. Et ça lui a coûté très cher. On se rappelle des paroles de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, versets 18 à 19 et aussi versets 24 à 25. Hein. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis, verset 24. Qui me délivrera du corps de cette mort? Et puis il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est l'apôtre Paul qui le dit, hein. Un homme que nous reconnaissons comme autorité dans la parole de Dieu. Et donc le livre des juges est un de ces livres qui ouvre les yeux, j'ai envie de dire, en nous montrant ce qui nous arrive lorsque nous nous détournons de Dieu pour suivre notre propre voie. Et parfois, en le lisant, on se demande même, qu'est-ce que ce livre-là vient faire dans la Bible? Je ne sais pas si vous avez déjà lu le dernier chapitre du livre des Juges. Il s'agit d'un Lévite qui était marié, enfin, il avait une femme de second rang, on appelle ça une concubine. Ils avaient le droit, hein. Une concubine. Et puis il a été rendre visite à son beau-père, et puis bon, 5 jours durant, le beau-père refusait qu'il parte, reste un petit peu encore, la nuit tombait, mais tu ne vas pas partir cette nuit-là, reste, demain matin tu vas partir, le matin reste, mais reste boire un coup avec moi, et puis pendant 5 jours. Finalement, le Lévite décide de partir avec sa concubine, et puis il était déjà tard, ils arrivent près d'une ville, mais ils ne voulaient pas y aller parce qu'il n'y avait pas de juifs là, c'était une ville d'étrangers, et il dit, je ne veux pas rester là, on va continuer plus loin, là où il y a des juifs. Il arrive, il fait nuit, il arrive sur une place publique, personne ne veut l'accueillir jusqu'à ce qu'un homme sorte des champs tardivement et il lui propose de rester dormir chez lui. Et lui qui dit, bon, tu n'as pas besoin de me donner quoi que ce soit, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai du foin pour mes animaux, on trouvera quelque part où dormir. Et alors qu'ils sont dans la maison du vieux, je ne sais pas comment est-ce que d'autres ont su qu'ils étaient là, des hommes sont venus et ont voulu coucher avec le Lévite. Et lui, pour y échapper, qu'est-ce qu'il propose? Il donne sa concubine aux gens, tranquillement. Et la parole de Dieu nous dit que pendant toute la nuit, on a abusé de la pauvre femme. Jusqu'au petit matin, elle arrive sur le bord, sur le seuil de la porte le matin. Et le Lévite, prêt à partir le matin, il ouvre la porte, il voit la femme, il lui dit « Lève-toi ». Pas de réponse, parce qu'elle est morte. Il la prend, il la met sur un âne. Quand il arrive chez lui, il la découpe en 12 morceaux et il envoie ça à chaque tribu. Et ce fut une cause de guerre. Un Lévite, premièrement, c'est-à-dire un religieux, qui arrive à ses extrémités. Parce qu'on a détourné le regard de Dieu, et parce qu'on fait ce qui nous plaît, parce qu'on fait selon notre cœur, on fait ce qui est bon à nos yeux. Mais il y a quelque chose de bien avec le livre des Juges. Parce qu'en disant cela, en terminant le livre par cette déclaration, en disant qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semble bon. Il n'y avait pas de roi en Israël. Le livre pointe vers quelque chose d'un peu plus réjouissant, et de nettement plus réjouissant, je dois dire. L'auteur semble dire que tant qu'il n'y aura pas une autorité digne de ce nom en Israël, la promesse faite à Abraham ne pourra pas s'accomplir. Israël ne pourra en aucune façon être une bénédiction pour les nations, c'est-à-dire leur apporter le salut. C'est ce que ça veut dire, être une bénédiction pour les autres nations. Leur apporter le salut. Et c'est en effet par la royauté que la solution arrivera. Vous savez que c'est uniquement lorsque David est devenu roi que les Israélites ont été débarrassés des Philistins. Mais en cours de route, David a échoué. Le peuple tout entier a échoué. Tous les autres rois qui ont suivi ont échoué. Mais les prophéties disaient que le rejeton de David régnera sur son peuple. Et là, il pointait vers Jésus-Christ. Et donc, dès cet instant, la venue de Jésus-Christ est annoncée. Enfin, je dis dès cet instant, dès la Genèse d'ailleurs. Mais là, l'auteur pointe vers Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le seul qui a pu, à à l'inverse du peuple d'Israël, obéir à tous les commandements de Dieu, comme il fallait, n'ayant jamais péché, nous aimant jusqu'à offrir sa vie pour nous, témoignant ainsi tout son amour. Et c'est à lui que nous devons regarder aujourd'hui. C'est vers lui que nous devons nous tourner aujourd'hui pour savoir comment agir, comment nous comporter, comment aimer mon frère, ma sœur, comment aimer l'étranger, celui qui n'est pas comme moi, celui que je peux vouloir regarder avec dédain parce qu'il n'est pas dans l'Église, ou même celui qui part de l'Église, tout simplement. Jésus-Christ est notre roi. Jésus-Christ est celui qui règne dans nos vies, dans nos cœurs. Et mon encouragement à nous, en lisant ce texte de Juges, c'est de se dire, nous sommes faillibles, nous sommes bien incapables, et nous l'avons vu chez tous les juges, jusqu'à Samson, bien incapables, avec nos faibles moyens, d'obéir à Dieu. Mais Jésus venant, ensuite, nous envoyant son esprit, c'est par lui que nous pouvons tout accomplir, de ce qu'il nous demande. Et nous pouvons dire comme Paul, gloire soit rendue à Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui nous permette de faire sa volonté. Alors soyons encouragés, il y a encore de l'espoir pour nous. Nous pouvons encore nous tourner vers lui afin qu'il puisse régner dans nos vies, dans nos cœurs et que nous soyons ses dignes représentants sur terre. Que son nom soit béni. Amen. Amen.